Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue au 8e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec The Quest, le film avec Jean-Claude Van Damme de 1996. Ah, ça se ressemble beaucoup, mais avec moins de savates et plus de pseudo-commentaires sociaux qui nous donnent l'impression qu'on est intelligent.
Oh. Ouais, bonsoir. C'est vraiment juste une impression.
Ben, effectivement. Bonsoir, je suis Mathieu Bonin avec Danny Gravel.
Hey, salut!
Et Jeff Laporte.
Hello!
Alors, cette semaine, on a un épisode spécial où est-ce qu'on va parler de notre cher sport national. On parle de hockey pendant 1h30. Éteignez pas le podcast tout de suite.
Je pensais que ça allait de la crosse. Là. Ah, ça, c'est l'été.
Ah, ben, ça dépend si on est en période d'élection ou pas. Et oui. Donc, non, n'en allez-vous pas si vous n'êtes pas fan de hockey. On va essayer de parler de jeux qui intéressent même ceux qui n'en ont rien à cirer du hockey.
Ah, watch out, dans mon cas, ça dépasse clairement le thématique hockey.
Bon, ben, raison de rester jusqu'à son segment qui est probablement le dernier parce qu'on s'est dit que.
Non, mais on a de la suite dans les idées.
Ben, on essaye quand même à l'occasion. Fait que, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, mes écœurants?
Ben, moi, cette semaine, c'était BlizzCon, hein? Puis je suis un fan de Blizzard. Fait que j'ai crissement passé 2 jours à regarder des streams. Puis avec 2 écrans, tu fais quoi? Ben, tu repars tes jeux de Blizzard. Fait que j'ai rejoué pas mal à WoW, puis tu sais, c'est ça. Ben, c'était intéressant. Alors, quand même.
T'as eu une rechute?
J'ai eu une rechute, ouais. Mais non, je suis quand même content, puis il y a eu des belles annonces, là. Fait que ça m'a redonné un peu le goût. Ça m'a repopé le Blizzard.
Ça se conjugue bien.
Bon, oui. J'ai aussi joué à Xenogears sur ma PSP. Xenogears qui est un des jeux que j'ai le plus aimé au PS1, mais que j'ai pas fini pour un paquet de raisons étranges et obscures. Donc, je me suis reparti une game pour me rendre compte à quel point c'était bizarre au début. Peut-être toutes les références à l'histoire qui sont comme plus loin dans le jeu. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai joué que je me rappelle même plus du pourquoi, du comment, de l'affaire comme religieuse. Puis mais bref.
Je pense que même les designers de jeux s'en rappelaient pas tellement
probablement
pendant qu'ils le faisaient.
Ça se peut qu'arrive. C'est ce qui arrive quand on consomme du PCP.
Ou qu'on est japonais, tout simplement.
Je voulais faire une petite excuse. Je m'excuse pour mon segment Shadowrun. Ça fait toujours ça quand je fais un segment sur Shadowrun ou quelque chose sur Shadowrun. Je m'étends vraiment beaucoup trop sur le sujet pour rien.
Ben, en fait, dans ce cas-là, on va te donner une petite punition, ouais, pour être dans la thématique. Alors, pour retard de jeu.
Et voilà.
c'est un sifflet, ça?
Ben oui, c'est un sifflet de Blade of Steel.
Oh, nice!
un sifflet 8-bit. J'ai aussi découvert cette semaine, pour ceux qui aiment comme moi la politique et la progression de jeux vidéo, le Trudeaumètre. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, trudeaumètre.ca, qui est vraiment une espèce de compilation des promesses électorales de Justin Trudeau, notre nouveau premier ministre.
C'est bien de préciser.
Quand même d'un coup. Réparti par sujet, avec une espèce de barre de progression style achievement qui dit bon pourcentage des promesses réussies, pourcentage de promesses en cours d'accomplissement, pourcentage de promesses dans le fond abandonnées ou échouées, brisées.
Moins tant que quand ils le veulent, ça ne permet pas de signer la Constitution. Je suis relativement à l'aise avec ça.
Donc on va voir à quel niveau notre cher premier ministre se rendra présentement là, en date d'aujourd'hui, 17 novembre. Bon, pas encore touché 173 des 184 promesses électorales, 8 promesses en cours, 3 de réalisées, 0 de brisées. Donc 0 promesses de brisées pour un gouvernement qui est là depuis 14 jours, c'est quand même un record.
Ça rend optimiste.
Donc trudeaumètre.ca pour les geeks qui aiment ça voir les barres de progression qui s'appliquent à tout et rien. Puis j'ai commencé à écouter la deuxième saison de Série Noire qui est sur tout.tv extra là, pour ceux qui ont accès. Moi j'ai accès par mon forfait cellulaire. Je pense que c'est la première série au Canada, qui, en tout cas peut-être pas au Québec, qui se drop à la Netflix là, tous les épisodes d'un coup. Puis dans ce cas-là c'est particulier parce que la série commence à être diffusée en janvier à la télé, donc elle est disponible au complet avant la diffusion à la télé Netflix style pour un peu de
comme un 2 mois d'avance
de binge watching. Donc sur 10 épisodes je suis rendu à l'épisode 8 parce que c'est comme ça, hein, c'est Série Noire. Donc s'il y en a qui ont accès à tout.tv extra ou qui ont un forfait avec, je pense c'est Rogers ou Telus, je vous conseille fortement d'y aller, ça vaut la peine, c'est puis une méchante bonne série.
Puis si vous avez jamais été abonné à tout.tv extra, le premier mois est gratuit, donc vous pouvez vous inscrire pour binge watch. Pour binge watcher, je pense pas que je me trompe là, mais c'est ça, t'en as un mois gratuit pour sauter à pleine face là-dedans.
À la Netflix.
Ouais, exactement.
Ouais, mais vraiment là, d'un coup, la série qui va être diffusée après la télé, genre beau move. Puis pour ceux qui connaissent la série, ben c'est une série qui a pas beaucoup marché à la télé, mais qui a été hyper regardée sur tout.tv. Fait que c'est un peu un clin d'œil à ça en même temps.
Puis la saison 1 est disponible sur.
Je pense que oui. Je pense que même qu'elle est disponible à tout le monde la saison 1. Donc ouais, c'est ça cette semaine. Moins de jeux, mais un peu de tout.
Ah, puis, excusez, Série Noire aussi est sur Netflix.
Et sur Netflix, ouais.
Série Noire est sur Netflix.
Ouais, sur Netflix. Ouais. Je l'ai écouté là, puis c'est juste c'est fatigant parce qu'on t'enlève les sous-titres à chaque fois parce qu'ils les remettent automatiquement à chaque épisode. Mais sinon, c'est très drôle.
Good.
Ouais.
De mon côté, on investit un petit peu trop de temps à redorer l'image visuelle, pas l'image là, de la perception de Divan Quest, parce que ça, il n'y a rien à faire pour aider ça. Mais on a fait un nouveau logo, ou en fait, j'aurais dit un premier logo, considérant que t'en étais à peine un avant. Donc, on a un nouveau logo qui devrait apparaître sur votre feed de podcast quand vous allez écouter celui-ci, même un peu avant. Puis, on est en train de travailler sur le site web aussi. On a déjà le nom de domaine. On a divanquest.com.
Hey, .com, pas rien. Hein?
On se garde, on se garde.
C'est pas voilà. Comme si on avait un nom qui existe. Comme pas, mais...
Ben, ben, considérant à quel point on se fait out-référencer par les divans les d'examen médico divan. Quest, sérieux, je pense qu'on est même plus à, dans les deux premières pages, c'est écrit divan espace Quest, tellement qu'ils ont des belles promotions. Donc, voilà, fait que divan Quest, pas d'espace, comme ça on est beaucoup plus facile à trouver. Puis divanquest.com, le site devrait être en ligne au maximum d'ici deux semaines, là, je vous dirais.
Génial.
Et voilà. Également, j'ai été mis au fait d'un projet Indiegogo. Pour ceux qui ne connaissent pas Indiegogo, c'est comme Kickstarter, finalement. D'un jeu style 16 bits du nom de IMA Longsword Tournament. Quand je dis IMA, c'est H-E-M-A qui représente les Historical European Martial Arts, donc le combat à armes anciennes.
Je pensais que c'était Eamon qui avait perdu son N au poker.
Ben non. Ouais, tout simplement. c'est un jeu 16 bits de combat à armes anciennes. Mon frère est très, très, très impliqué dans cette discipline-là. Ces disciplines-là. Puis il m'a présenté ça, puis il trippait parce que le gars qui fait le jeu se base sur des vraies techniques. Les profs dans le jeu sont des vrais enseignants reconnus internationalement qui ont donné la permission d'être là. Puis le projet Indiegogo, si vous mettez comme 35$, vous permet d'avoir votre personnage comme un adversaire dans le jeu. Fait qu'évidemment, ben, mon frère a sauté à bord et j'ai décidé de me joindre en support. Donc,
moi, je vais prendre le jeu juste pour pouvoir tapocher sur Mathieu de façon...
Ben, si ça peut inciter du monde. mais le jeu à la sortie va être gratuit de toute façon. Il est prévu pour l'été prochain.
Okay.
Puis la campagne Indiegogo roule jusqu'au 16 décembre. Donc, même si nos podcasts sont publiés plus tard qu'on les enregistre, ben, il va rester du temps pour que le monde en profite.
Pour une fois.
Puis c'est une discipline qui est super intéressante. Il y avait je pense qu'il y a un documentaire sur YouTube
oui,
complet sur le IMA, justement.
Oui, je l'ai justement dans ma liste d'écoute quand on regardait des trucs avec Danny tantôt. Je ne l'ai pas écouté, mais mon frère dit que c'est une très, très, très bonne source d'information. Il est bien construit, donc puis, pour les intéressés.
Puis ça brise l'image un peu de ce que ça peut avoir. Là, si on peut avoir une image de fan de grandeur nature qui va aller faire les choses, mais finalement, non. Là,
C'est sportif.
Ouais, c'est très sportif.
C'est vraiment conçu de façon sportive.
J'imagine que c'est un peu le pendant européen du kendo ou quelque chose comme ça. Là, qui,
C'est ce qu'ils essayent de présenter. Parce que ça n'a pas été construit aussi directement que le kendo dans ce sens-là. Mais ils essayent de ramener ça, justement, de ramener le côté sportif,
ouais, ouais, sportif.
Qui était comme méconnu parce qu'on disait tout le temps que tu apprenais à te battre puis tu te tuais. C'était pas mal tout. Donc, c'est ça. Puis la campagne roule. Je mettrai le lien sur Twitter. Ça va donner une raison au monde de nous suivre.
Hey, bonne idée.
Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai chialé après GF parce qu'il a fait des petites erreurs pour son contenu. Donc, encore une fois, une punition à GF. Quand on a parlé des jeux procéduraux.
Oui, effectivement. Je dois des excuses, M. Bonin. Votre honneur.
Votre honneur.
Oui, parce que quand on a parlé de création procédurale, de contenu, en fait, j'ai mentionné que le premier jeu à s'en être servi, c'était Elite en 80 quelques. Et tu m'avais relancé en pensant que c'était Rogue. Et bien, tu avais raison. Donc, je m'incline.
Je connais mon old school. J'aurais pensé quand même qu'il y en avait eu un avant Rogue, mais il semblerait que non.
Effectivement.
Voilà, fait que c'est ça pour moi. Je suis allé après du monde, puis dépenser de l'argent sur Indiegogo. C'est pas mal ma semaine.
Et moi, j'ai eu une semaine un peu anti-gaming, en fait. Parce que ma semaine s'est résumée à principalement me tanner de Destiny. C'est enfin arrivé après ça fait une belle année complète que le jeu est sorti. Enfin, ça vient d'arriver. Mais c'est ça, je l'ai mis de côté parce que j'avais l'impression que j'avais fait le tour de la question. Puis que tout ce qui me restait à faire, finalement, c'était de répéter la même chose puis continuer à perdre du temps. En fait, mon temps n'était plus bien investi dans le jeu. Fait que j'ai décidé plutôt de me remettre un petit peu à la programmation puis j'ai ressorti Unity, ces choses-là. Fait que ça m'a fait des soirées bien remplies à essayer de recomprendre le code que j'avais écrit il y a 2 ans.
Avoue que c'était à cause de ton bout où tu parlais de Uplink la dernière fois là.
Ben en fait non, ça a beaucoup influencé par le projet de Disney sur code.org de Star Wars.
Oui.
Pour apprendre aux jeunes de 10 à 12 ans à programmer en Java, où c'est comme des blocs de code que tu peux mélanger ensemble. Je pense que vous l'avez fait les deux.
Fait que maintenant, t'es vraiment rendu fluide à faire déplacer un BB-8 en JavaScript.
Mais en fait, non, j'ai pas fait le. J'ai pas
mais
fait
ça
le
a été. Tu sais, pour avoir gossé un peu avec, moi, je faisais un peu ce qu'il nous disait. Là, j'utilisais les commandes qu'il disait, puis je le faisais quand même en texte parce que à un moment donné, tu sais, J'ai beau pas être un programmeur, j'en ai fait un peu dans ma vie, fait que c'est plate de déplacer des blocs. Puis en jasant avec Mathieu, on s'est mis à essayer d'autres commandes qui étaient vraiment pas données, puis la structure est toute là. Fait qu'on...
Parce que c'est ça, c'est un peu ma job. Là. Fait que c'est comme, quand... je sais pas trop comment ça marche, une boucle en JavaScript, je suis à ta minute.
Ouais, l'idée était là. T'sais, j'ai comme encore toute l'idée, puis le, voyons,
le thinking.
Le thinking, mais, là, le principe.
Mais le concept est super intéressant. Ouais, oui. Si ça peut attirer les jeunes, puis les apprendre à programmer, je pense que ça va être une discipline que tout le monde va devoir apprendre dans les années à venir, puis ça va être utile à
mais la logique de programmation est géniale. Moi, ouais. C'est ce que je disais, avoir un peu plus de temps, être au primaire, mettons, là, c'est clair que j'en faisais affaire avec mes élèves. Là, au secondaire, le programme étant un peu plus chargé, c'est plus dur, mais...
Puis ils ont sorti la même chose de Minecraft cette semaine, je crois.
Ça.
Ouais, ça a plus de potentiel.
J'en connais qui seraient très intéressés. Je vais checker ça peut-être pour pitcher mes intéressés dans ce chemin-là.
Mais pour les intéressés, c'est... code.org/ Star Wars, je pense.
Bon, ça, ben, code.org, puis on trouve tous les modules qu'ils offrent.
Ça, ce qui m'a ramené un petit peu à la programmation. J'ai ressorti Unity, je me suis remis à me remettre dans ça un petit peu. Vendredi soir, un de mes collègues de travail me lâche un coup de fil, il m'invite, il dit « Jeff, on fait une soirée board game, ça te tente-tu? » Fait que j'ai dit oui. Fait que je suis allé et on a eu un aperçu cette soirée-là de ce qui nous attend dans les semaines à venir. On a joué à Dead of Winter.
C'est pas drôle.
Donc, comme bientôt en janvier, mais c'est un jeu où les zombies essaient de prendre d'assaut ta colonie, puis il faut que tu te défendes.
Ah, ok, je pensais que c'était l'hiver qui s'en venait, excusez-moi.
Non, mais tu sais, ça va ressembler à ça sur le plateau.
Que c'est des zombies.
Ça va ressembler à ça sur le plateau. Bon, ça y est. Il est allé une fois au Helm sur le plateau, puis là, il fait des jokes de plateau.
J'habite pas très loin quand même. Fait que des fois, ça déborde jusque chez
toi,
nous.
T'as le plateau, t'as la place où ils font de la poutre au Smoke Meat, puis t'as Jeff.
C'est ça.
Bon, c'est pour ça que je me rends jamais chez Jeff.
Ben non, mais c'est ça, c'est super intéressant comme jeu. Je vais me lancer pas dans une critique, mais on a eu une très 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 bonne soirée. Et ben samedi, on s'est gâté, moi puis Matt, on est allé malheureusement sans notre comparse Danny, on est allé voir.
On est allé ensemble.
On s'est gâté. On s'est gâté la soirée parce que la soirée était encore jeune.
Donc pour ceux qui n'auraient pas compris le gag douteux, ben on était allé à l'enregistrement de l'émission La soirée est encore jeune. De Radio-Canada. Voilà.
Puis moi, j'étais pas là parce que, encore une fois, je vais péter ma coche parce que quelqu'un n'est pas capable de respecter les horaires pour mettre des billets en disponibilité. Voilà.
J'aime bien comment tu paraphrases, tel un politicien, la situation. C'est plus une erreur qu'une volonté de ne pas respecter, disons.
Le message est passé.
Voilà.
C'est sûr, parce que Olivier Niquette écoute notre podcast non-stop.
Ouais, c'est ça.
Fait qu'en gros, c'est ça. Ça a été une semaine quand même tranquille, moi, de mon côté. Fait que ça arrive une fois de temps en temps. Que voulez-vous?
Pourtant, on a eu du temps. Notre dernier enregistrement me remonte à 17 jours. Écoute, j'ai failli quitter le pays, me fonder une famille, tout le kit.
Tout le kit.
Ou pas. Hein, ou pas. C'est... Donc on est rendu à l'actualité. Alors, depuis le 13 novembre, le gouvernement turc a officiellement bloqué accès à Reddit pour tous les résidents du pays. 4 jours après l'interdiction d'accès à Reddit, on constate partout au pays une augmentation de la productivité, mais une réduction du nombre de photos de chats qui font des affaires cute. Le pays est doté d'une loi nommée la loi Internet numéro 5651, qui sonne un peu comme une affaire qu'on inventerait sur le tas pour essayer de justifier quand on bullshit quelqu'un, sauf que là, c'est vrai. Sous cette loi, le Conseil suprême turc des télécommunications et des technologies de l'information peut bloquer du contenu Internet qui contient de la prostitution, pornographie, drogue, des liens au terrorisme, partage de fichiers illégaux et j'en passe. Tout ça sans besoin d'autorisation de la Cour. Les Nations Unies songent à intervenir dans le dossier, mais sont tous trop occupés à regarder des photos de chocs qui font des affaires cute.
C'est ça qui arrive, hein?
Ben, tu sais, c'est un peu du réchauffé de ma joke de v'là un mois, mais à cette heure qu'ils n'ont fait une semblable à soirée est encore jeune, j'ai besoin de défendre mon fief. Là. Donc, je continue à faire ces jokes.
C'est nous autres les jokes cheap de photos de chocs.
Je te check, Olivier Niquet, justement. C'est juste une petite vengeance pour toi, Denis.
Voilà.
Suite au marathon de Bob Ross auquel on a eu droit sur Twitch il y a quelques semaines, Twitch a annoncé que suite au grand succès de cette initiative, le concept serait de retour et serait une émission hebdomadaire.
Ben non.
Et oui, c'est un très très beau témoignage à un homme extrêmement positif qui a marqué la vie de beaucoup de gens durant sa longue carrière. Une seule personne se serait opposée à l'idée, criant que Bob Ross est un hostie cheater. Il s'agirait d'un certain fuck the bitches 547. Si vous ne pognez pas la joke, écoutez les autres épisodes. Voilà. Comme nous le présentait cette semaine le site The Verge, qu'on pourrait traduire tout simplement par La Verge, la nouvelle mise, nouvelle mise à jour du Xbox One, connue sous le nom éloquent de New Xbox One Experience, ou NXOE, ça coule vraiment en bouche là, comme expression, a amené aux utilisateurs de la console de Microsoft une panoplie de nouvelles fonctionnalités, que ce soit la rétrocompatibilité avec une centaine de jeux de Xbox 360, servant un peu à combler le manque de plus en plus évident de titres à jouer depuis le début de la nouvelle génération de consoles, ou la capacité de réassigner tous les boutons sur la manette du Elite Controller, et ils ont même annoncé récemment de la manette normale aussi. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait permettre à un amateur de RPG de se créer un layout de manette, lui permettant de jouer à une seule main, lui laissant une main libre pour peut-être faire de quoi de plus constructif de sa vie que de grinder en jouant à un RPG. La prochaine mise à jour devrait apporter une meilleure gestion des paradoxes et, espérons-le, des jokes mieux construites. le jour de la sortie de Fallout 4, à partir de 4h du matin, Pornhub a enregistré une baisse d'autour de 10% de son trafic Internet par rapport à la moyenne. Ça aurait sûrement été à partir de minuit, mais il faut quand même que ça ait le temps de downloader ces jeux digitaux-là.
Ouais, entre-temps, il faut s'occuper. Ouais.
Mais autour de minuit le soir suivant, ils ont constaté une hausse de plus de 15% de l'achalandage. J'ai une théorie. Ça devait s'agir du moment où les blondes et les chums des fans de Fallout ont décidé de se starter à mitaine parce qu'ils ont eu l'épiphanie collective que leur conjoint-conjointe ne referait pas surface avant une esti de bout. C'est à propos. Encore sur le site de La Verge, j'ai appris que Jason Momoa allait jouer dans une série Netflix au sujet de la traite des fourrures du 18e siècle. Je présume dans le rôle d'une fourrure.
Ben oui.
C'était un quickie. Du nouveau dans notre segment Konami Watch, il faut se trouver un thème pour ça aussi parce que ça fait 3 épisodes en ligne. Donc le segment où est-ce qu'on observe et on commente l'accident de train métaphorique qui est devenu Konami. La semaine dernière, le mammouth proverbial du jeu vidéo japonais nous a annoncé qu'on aurait droit à un nouveau jeu de la série Contra. Mais que se passe-t-il? Se pourrait-il qu'ils aient vu la lumière et soient de retour à faire des jeux que les joueurs veulent? Et non, il s'agit d'un jeu pour appareil mobile, free-to-play, avec microtransactions pour le marché chinois. Je crois qu'on pourrait faire un jeu. Hein? Juste, je vais vous donner des idées de marde basées sur Konami et leur franchise. Puis vous devez me dire, à la fin, parce qu'il faut que tout que je les nomme, laquelle que vous pensez qui est vraie. Alright?
Okay.
Good. Il pourrait faire un jeu de puzzle match 3 à la Bejeweled, basé sur Castlevania Symphony of the Night pour téléphone mobile. Okay? Un jeu de Dance Dance Revolution basé sur Freezenet. Un jeu de pachinko érotique de Castlevania. Un jeu de skateboard de Metal Gear Solid. Ou il pourrait acheter un RPG avec des éléments de poker pour appareil mobile, charmant et innovateur, le rendre free-to-play et le scraper en se faisant.
Fait que c'est le premier.
Ou le dernier.
Et non, malheureusement, elles sont toutes ou du moins en partie vraies.
Ah ben, là, l'affaire de Freezenet.
C'est ça.
Oui, il y a Dance Dance Revolution Strawberry Shortcake Edition.
Ça, c'est celui qui m'étonnait le moins, en fait.
C'est-tu... pénalité à Konami pour cabotinage.
Ben, ça s'appliquerait aux 15 dernières années de Konami, là.
Sérieusement. Ça me prend un sad trombone juste pour ces.
Mais ça, le seul qui n'est pas complètement vrai, c'est qu'on n'a pas eu un jeu de skate de Metal Gear Solid, mais il y avait un bonus sur l'édition complète de Metal Gear Solid 2 ou 3, où est-ce qu'on avait un jeu de skate.
Wow.
Ouais. Fait que c'est toutes des vraies choses.
Hey, de semaine en semaine, on est impressionné de plus en plus.
By the way, le jeu de pachinko érotique avait... comme tagline, c'était genre erotic violence. C'est le trailer est à voir.
C'est juste wrong.
C'est complètement triste. Alors, c'était tout pour l'actualité cette semaine.
Ah, Konami.
Hein?
Quoi?
Non, mais en fait, pour les auditeurs, vraiment, oui, on a mis des bumpers pour les segments, mais. Hein?
Ok, vous avez jamais joué à StarCraft de votre vie, sérieux?
Non, moi, on entend fuck all.
On entend fuck all dans StarCraft non plus.
Ok. Non, mais c'est correct, j'ai rien. Non, mais je veux pas. C'est correct faire de l'emphysème, là. Je veux pas juger personne. Fait que, ouais, écoute, Jeff, de quoi tu nous parles cette semaine?
Hey, mais cette semaine, on est dans le thème du hockey. Puis, j'ai voulu faire, évidemment, un petit peu différent, puis trouver un jeu qui était pas. Un jeu de hockey tel quel. Je suis remonté dans ma jeunesse quand j'étais jeune, finalement. Dans ce temps-là, j'étais jeune.
C'est vrai, ouais.
Et j'ai choisi de parler de Mutant League Hockey, en fait, qui est un jeu sorti en 94 sur Sega Genesis. Sega! C'est un jeu avec des mutants, étonnamment.
j'aurais pas deviné.
Que je me souviens avoir loué comme beaucoup trop souvent au VDOJ. à Joliette.
Shout out to BGG.
On aime quand même ça, un jeu que tu te rends compte après coup l'avoir loué tellement souvent que t'aurais vraiment dû l'acheter.
Ouais, mais j'avais pas de Genesis, fait que on le louait chez un ami. En fait, ce jeu-là est un spin-off de Mutant League Football, qui contient, puis dans le fond, Mutant League Hockey contient d'ailleurs des joueurs et des équipes qui proviennent du jeu de football original. Donc, c'est des joueurs qui ont décidé de se de transposer leur sport, d'aller jouer sur la glace au lieu de sur le gazon.
Et de faire moins d'argent.
Et de faire beaucoup moins d'argent. La série de jeux Mutant League, ça l'a vu le jour probablement à cause des arcades, en fait. Étant donné que, vu leur côté qui est super compétitif, les jeux de sport ont toujours été quand même populaires dans les arcades. Le saut vers des jeux un peu plus fantaisistes où on retirait le côté comme sérieux du sport pour en amener tout le petit côté ludique, le côté un petit peu fantaisiste des mutants et tout ça qui se battent sur la glace pour mettre la rondelle dans le filet. C'était super facile d'accès. Puis c'est un jeu qui était super populaire en arcade d'ailleurs, qui a été porté sur le Sega Genesis.
Je pensais que c'était un jeu de Genesis qui n'a pas eu de version arcade.
Il a été joué en arcade. Oh, cool. Ce jeu-là.
Il fait partie des 850 000 jeux que Sega a essayé de porter de l'arcade au Genesis.
Je ne pourrais pas dire. Oh, non.
Mais il faisait des très bons ports. Fait.
Oh, oui, et puis des très bons jeux d'arcade. Vraiment,
ouais. Et voilà.
Ben, contrairement à Mutant League Football, en fait, on passe ici de 5 à 3 races jouables dans ce jeu-là. Donc, les robots, les squelettes morts-vivants et les trolls. Donc, on met de côté les aliens puis les super-humains qui, un petit peu à l'image de George Carlin, trouvaient que le hockey, c'était pas vraiment un vrai sport, en fait. Parce que le hockey, ça joue pas avec un ballon, ça joue avec une puck. Puis, savez-vous, c'est où le seul autre endroit où on trouve une puck? Dans un urinoir pour éviter les odeurs. Puis n'importe quel jeu où l'objectif principal, ça provient d'un urinoir, c'est définitivement pas un sport.
Merci, Monsieur Carlin.
Shout out à George Carlin. Ouais. Donc, le ton et le thème du jeu, ça reste le même. On parle d'un jeu de hockey avec l'absence presque totale de pénalité. Un bouton dédié sur la manette pour frapper l'adversaire. Là, je parle pas de mise en échec, je parle de littéralement frapper l'adversaire.
C'est pour ça que ça prenait une manette de Genesis. T'as trois pitons.
T'as trois pitons.
Tirer, passer, varger.
Varger. Il y a des mines, il y a des trous dans la glace, il y a la possibilité entre les périodes d'échanger la rondelle pour une rondelle explosive ou
ben oui.
Donner des pots de vin à l'arbitre pour qu'il donne des fausses pénalités à l'adversaire. Donc c'est presque tous des éléments fantaisistes.
Comme dans le gouvernement libéral finalement.
Presque fantaisiste.
Presque fantaisiste. Voilà.
Le gouvernement libéral, tu veux dire de l'univers du jeu, là, tu parles pas de notre charmant gouvernement.
Non, je parle de notre charmant gouvernement.
Mon Dieu!
L'univers,
c'est social.
Tu parles de l'univers du jeu. Le jeu crée un super bel univers. Tu rouvres le jeu, puis tu es accueilli par une genre de présentation des joueurs, un petit peu comme c'est des acteurs d'un film qui vont participer au jeu. Et là, ils te nomment les joueurs que tu devrais connaître si tu es un fan de la série Mutant League, parce que c'est tous des personnages qui viennent du jeu précédent, puis qui reviennent dans ce même jeu-là. Là, t'as tous les crédits qui passent au début, ça a l'air comme super important. Quand t'embarques dans le jeu, on le droit à We Will Rock You en version 16-bit.
En version FM synth.
C'est un jeu extrêmement violent où tu peux...
Oui, on voit ça.
C'est souvent plus facile de frapper les adversaires pour leur prendre la rondelle que de les déjouer. Même que j'ai parlé tantôt qu'il y avait des trous dans la glace. Il y a tout le temps, selon les glaces, il y a des trous. Et tu peux jeter des joueurs dans les trous. J'ai d'ailleurs gagné une partie parce que tous les joueurs de l'équipe adverse étaient morts.
La meilleure façon de gagner une game de hockey, à mon avis.
Fait que, sans m'en rendre compte, je les avais juste toutes poussées dans le trou. Là, il y avait... Puis, ce qui est super intéressant du jeu, c'est que les, comme vous pouvez le voir vous autres ici sur l'écran, là, c'est que les cadavres ou les corps restent sur la glace puis on peut trébucher dessus en passant. Fait qu'il faut les éviter. Là, la glace devient rapidement comme rempli d'obstacles à éviter, de trous, de mines. Des fois, il y a un requin qui se promène, on voit son aileron, c'est incroyable.
Sérieusement, je regarde ça, je veux tellement jouer, il faut que je me trouve pour mon Genesis.
L'univers est plein de personnalités, là. Ça déborde, chaque animation est insane.
Les mises au jeu sont particulièrement comique en fait, parce que c'est souvent plus important de frapper l'autre joueur jusqu'à temps qu'il tombe KO que d'être le premier sa rondelle. Puis pour nous aider, la foule en bon partisan participe à la partie en lançant sur la glace diverses armes comme des fléaux d'armes ou des chaînes qu'on peut ramasser pour augmenter l'efficacité de notre attaque avant.
Ah, comme les games à Détroit.
Ce qui est super drôle, c'est qu'entre les périodes, il y a comme un écran fixe où on voit le banc des joueurs, puis il y a une genre de limace géante chevauchée par un mutant qui se promène puis qui avale tous les déchets qu'il y a sur la glace.
Donc,
un petit peu à l'image de Zamboni, exactement. Donc c'est un jeu totalement ludique. Je veux dire, c'est pas un jeu que je peux parler super longtemps, ok? Parce que Parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur à jeu. Je veux dire, tu fais une partie, tu as compris tout ce qu'il y avait à comprendre de Mutant League Hockey. C'est énormément de plaisir, par exemple. les contrôles, étonnamment, pour un jeu un petit peu, tu sais, deuxième degré, là, c'est très, très peu de sérieux. Les contrôles sont vraiment, vraiment précis. C'est vraiment le fun de se promener. Tu as vraiment l'impression, quand tu fais les passes, tu peux les diriger. Tes tirs, tu peux les diriger. Il y a quand même une profondeur au jeu de hockey. Qu'on penserait qu'il n'est pas là, en fait.
Oui, je pense qu'avec le côté, on se tape dessus, on a des mines, on explose, puis on se met en sang partout, puis on se tapoche à coup d'uppercut. Là. Le côté comme gameplay hockey aurait pris le bord, mais non, il est là quand même.
Il est là quand même,
puis,
c'est ça.
Puis c'est fou de penser que c'est un jeu qui est fait par Electronic Arts. Hein. Ouais. Un testament du moment dans leur carrière où il y avait une personnalité. Là. C'est pas une joke. Non, là, c'est juste... Comment ils font les séries annualisées de jeux de sport qui sont génériques à l'os.
C'est pas une joke, c'est un triste constat.
Mais Mutant League 2016 me fait acheter un PS4. Moi, là.
Ça serait pas bien, par exemple. Sauf que ce qui me met à la réflexion, que ces jeux-là seraient peut-être pas aussi populaires aujourd'hui, en fait. J'ai toujours eu l'impression que le gamer moderne, avec le souci du réalisme qui est poussé de plus en plus loin dans les jeux vidéo, que le gamer moderne plus de difficulté à accepter la fantaisie dans des jeux puis à se détacher des choses qui seraient réalistes. Peut-être, ça vendrait peut-être. Est-ce que ça deviendrait un hit, un blockbuster? J'en doute, par exemple.
Ben, il y avait eu, il y a 2 ans, il y avait eu un Kickstarter pour relancer Mutant League Football sous le nom de Mutant Football League.
Oui, ouais. Original.
Je crois par certains des développeurs originaux. Mais bon, j'ai pas fait mes recherches, là, fait que prenez pas ça pour gospel. Puis ça avait manqué son goal. Mais il disait qu'il continuait quand même le développement. Je sais pas ce qui en est arrivé, là, mais effectivement, il n'a pas réussi à générer assez d'intérêt pour un jeu de la série Mutant League.
Mais je pense que on avait une belle innocence quand on était plus jeune, où on était ouvert à tout ça. Je pense que moi, j'ai perdu rapidement mon innocence, Danny.
Ah, 14 ans. Cette année charnière et charnue.
Et charnue. Et charnel.
Et voilà. j'y arrivais. Ben, t'es arrivé avant, toute évidence. Et
voilà, effectivement. Ok, c'est beau.
On peut passer à un autre gag.
Une idée, je m'en allais avec ça, j'ai perdu mon internet. Ah non, c'est ça. On avait une belle innocence, je pense que le marché nous a peut-être fait perdre, malheureusement. Fait que, ben, vous réfléchirez à ça ce soir, assis dans le noir, tout seul, en pleurant avant de vous endormir. juste pour terminer mon petit segment sur Mutant League Hockey, les équipes sont séparées en 3 conférences dans le jeu. C'est-à-dire la Toxic Conference, la Maniac Conference et les All-Stars. Puis toutes les différentes équipes des conférences sont...
On dirait que c'est... Tu sais, ça doit être les All-Stars, c'est comme la moins intéressante, pareil.
C'est la moins intéressante, mais c'est ceux qui ont le plus haut rating, en fait. Parce que les équipes sont cotées de 1 à 6 crânes. Fait que c'est comme ça qu'on voit s'ils sont bons
ou pas. 90 radical.
Quelle année t'as-tu...
94, oui.
Par Sega.
Et... Ce qui est super intéressant, c'est qu'à travers les 2 premières conférences, pas les All-Stars, mais à travers les 2 premières conférences, toutes les équipes sont nommées comme étant un peu des parodies des équipes réelles.
Oh.
Donc, ben, j'avais l'idée de faire un petit quiz avec vous. Ça va être de vous challenger. Je vais vous lire le nom de l'équipe qu'on retrouve dans Mutant League Hockey, puis je vais vous demander d'essayer de deviner le nom de l'équipe qu'on parodie avec le nom de l'équipe qui est là.
Allons-y.
Donc, on va y aller avec le premier. On avait les Dead Things.
Les Dead Things. Got nothing.
Ça, c'est les Red Wings.
Oh, ok. Dans, okay, genre de...
C'est comme ça, on les paradis sur le son des mots. Ouais. Ou presque. The Shrimps. The Shrimps.
Les Sharks.
Les Sharks.
Oh. On a une thématique marine.
Exactement. The Derangers.
Les Rangers.
Les Rangers. Ouais, les Derangers. Ça, j'aime quand même bien, c'est les Chili Liars.
Les Chili Liars.
Chili Liars. C'est les Philly Flyers.
Oh!
Oh, quand même.
Il y avait le nom de la ville. Les Flyers
de Philadelphie. Mm-hmm. Ça, c'est facile. Les Mighty Weenies.
Ouais, là.
Modulé.
Ben, les saucisses fortes, là.
Ben, c'était très connu de Saint-Gabriel.
Mais en 94, les Mighty Ducks, c'était là.
Et les Mighty Ducks dans même. Ouais, okay. Ouais.
Je me rappelais pas l'année qui était en.
C'est une équipe qui est scorée. 0,
en fait, c'est les Mighty Ducks qui sont inspirés des.
C'est les Mighty Ducks avec Gordon Bombay. Là.
Avec Emilio Estevez.
Point. Ah, quand même.
C'est la seule équipe d'ailleurs qui est de côté 0 score, 0 crown dans la conférence.
Not so mighty, hein, oui.
Après ça, on avait les Bruiser Bots.
Les Bruins
de Boston, effectivement. Ça, là, j'aime bien. J'ai comme, je sais pas pourquoi, j'ai un petit charme pour les Saint Mucus Ooze.
Les Saint Louis.
Les Saint Louis Blues. Donc les Saint Mucus Ooze. Elle est facile. Les Blackhearts.
Blackhawks.
Les Blackhawks et.
Did you mean Blackhawks?
Did you mean Blackhawks? Parce qu'il y a peut-être deux en
passant. Et la dernière et non la moins, les Montreal Cadavers.
Aucune idée.
Je sais pas, les Whalers de Hartford.
Ce qui est intéressant, c'est que le monde ne le voit pas, mais j'ai mon chandail du Canadien sur le dos pendant le pod.
Et voilà, il fallait pour une thématique hockey.
Donc c'est les Montreal Cadavers.
Ça fait de l'extrêmement bonne radio porter un chandail.
C'est important de même.
Ah, c'était le même concept que le podcast dans le noir de l'autre fois.
Oui.
C'était aussi drôle.
Hey, on passe à autre chose. C'est excellent, ça, comme petit quiz. Mais c'est vraiment sérieux, je le regardais, c'est super intéressant. En même temps, pour les intéressés, Complete Inbox, un petit jeu de 80$.
Ouais, mais
tant que ça pour vrai?
Je m'en allais demander.
55 loose, mettons, à peu près.
Puis typiquement, c'est ça, les jeux de Genesis sont pas très chers, Complete Inbox, parce que les boîtes sont très durables.
Ouais, ouais. Mais donc, lui, c'est une question de rareté, peut-être, ou quelque chose, parce que 53 US loose selon Price Tracking.
Ben, question de rareté, c'est un jeu.
Ouais, je dirais plus que c'est une question de plaisir. Il est juste trop le fun, le monde va me chercher. Il va pas s'en débarrasser.
Moi, je pense que le hockey a jamais tant de popularité que ça. On est spéciaux au Canada, on aime vraiment le hockey, mais c'est pas si répandu que ça.
Puis on fait vraiment pas rire de nous dans les émissions américaines à cause de ça.
Bon, non. Je joue pas de quoi tu parles.
Fait que shout-out à George Carlin.
Ben, merci. Sérieusement, là, mea culpa, là. Je suis un huge fan de hockey, là. Puis je n'ai souvent entendu parler, j'ai jamais joué. Puis là, en regardant du gameplay pendant que Jeff faisait son segment, il faut que je joue. Il faut vraiment absolument que je joue.
Que je joue aussi.
C'est beaucoup trop attrayant. Je ne pensais pas qu'il était si beau que ça, le jeu.
Non, pour vrai. J'ai trouvé ça plate de le jouer tout seul. En fait, j'ai joué sur émulateur parce que j'ai pas de Genesis, malheureusement.
Puis, pas 80$.
J'ai pas 80$. Mais oui, j'ai 80$. Mais mais je trouvais ça plate de le jouer tout seul. Puis je me disais, hey, ça serait tellement le fun de se varger dessus à coup d'armes de mêlée sur la glace. Puis de pitcher Matt dans un trou pendant qu'on joue au hockey. Ça serait, j'aurais peut-être une chance de gagner enfin à un jeu de hockey contre Matt.
C'est pas la place pour poser des questions quand on fait une chronique de même, là, mais je regarde le gameplay et je me dis, est-ce que c'est monté sur le moteur du premier NHL?
Il y a quelque chose qui est semblable. Hein?
J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pas vu cette information nulle part.
On fera la recherche pendant le pod et on reviendra avec ça.
Ouais, bonne idée. Donc, aujourd'hui, dans l'univers d'Ivan Quest, je vais avec la date du 23 novembre, là, qui devrait être la date de diffusion du podcast. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 novembre? Je commence avec les naissances. 1859.
Ah oui, ça, je le sais. Non.
Billy the Kid. Tu sais, qui n'est pas juste... c'est vraiment un vrai outlaw américain. Là. Bon, donc, ouais. 1953, Francis Cabrel. Hein, je fais toujours des choix de naissance qui ont des gros liens ensemble. 74... Pour Matt, Sakou Koivu.
Yeah, le petit Sakou Koivu, c'est un gars de la boxe.
1987, Snooki. Ceux qui ne connaissent pas Jersey Shore.
On passe au prochain appel.
92, Miley Cyrus.
C'est ma réaction.
Écoute, moi, je me disais que ça faisait un beau cast pour un beau line-up pour un reality show. Vraiment, là, je voudrais voir ça.
Ah, oh, Monsieur Gabriel, très divertissant.
Monsieur Gabriel qui s'engueule avec Snooki.
Et Billy the Kid.
Et Billy the Kid qui tire tout le monde. Voilà. Je vais à la partie gaming, hein, c'est quand même généralement ce qui nous intéresse. Et sérieusement, je n'invente rien. 1980, en Europe, Blade of Steel au NES.
Oh
et la
my
foule est en délire.
Il n'y a rien comme une foule 8 bits pour te starter son homme.
Pour te starter à la mi-temps.
1998.
Hey, listen!
Oh!
Ocarina of Time, 64. Je vous dirais qu'en général, là, c'est les sorties US que j'ai regardées parce que si on se met les sorties internationales, ça n'a pas de sens. À part pour Blade of Steel, je ne peux pas passer à côté avec la thématique. 99, on a un grand classique, Unreal Tournament, le premier. J'ai entendu un commentaire qui a été entendu au moment de la sortie du jeu. I felt a great disturbance in the force. Donc, oui, Unreal Tournament, que oui, moi aussi, beaucoup trop joué. Écoute, anecdote, allons-y. On était à Polytechnique. 2000, ouais, c'est ça, encore un bruit. 2004, quelque chose comme ça. Puis Guillaume, de qui j'ai parlé l'autre fois, qui avait pas de souris sur son laptop. Puis on joue Unreal.
Qui joue avec un trackpad.
Fait qu'il se collait dans un coin, caché loin, il se mettait en petit bonhomme.
Avec le real gun.
Puis c'était très drôle. On s'est mis des beaux noms qui fitaient. Lui, c'était fucking pas de souris. mon ami Jean-Luc s'appelait Fuck You Danny.
Mais
voilà, c'était
un classique.
Un classique. 2004, 23 novembre. un petit jeu, un petit MMO pas trop trop connu, hein, World of Warcraft.
Ok, ouais, ben, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était pourri à l'os.
Sans aucun lien, de façon tout à fait aléatoire, la productivité mondiale a droppé de moitié cette journée-là.
Ah, c'était pas à cause de Reddit qui se fait couper en Turquie, là?
Non, non, non. Ben, ah, non, ben... ça l'augmentait, la productivité.
Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est le retour des choses.
C'est le retour des choses. niveau techno, en 1889, ouais, j'étais allé loin dans l'histoire cette fois-ci. Mm-hmm. Le premier Nickel in the Slot player. Il est installé dans un saloon à San Francisco.
Tu recommences ça?
Oui, ils vont les traits d'union dans
Nickel
ça.
In the Slot.
Donc, c'est-à-dire un Chad Kroger dans Pente. C'est ce que j'ai compris.
Back dans Pente. Donc, oui, il est installé dans un saloon à San Francisco. Et j'ai bien dit saloon, hein, 1889. C'est le premier, mettons, prototype de jukebox. Où est-ce qu'on pouvait mettre un nickel, un 5 cents. Puis quatre personnes avec des écouteurs pouvaient écouter une chanson sur un phonographe Edison, hein, à l'époque. Wow. Donc, c'était la belle époque. Hein, on n'avait pas besoin de se taper les bébés parce que quelqu'un avait mis un 25 cents d'une machine dans un bar. Là.
Hey, tu parles pas contre les bébés ici, toi.
OK. Nickelback, mettons.
Ben, je viens de le faire. Okay. Okay.
Continuons. 63, il y a un petit show de sci-fi pas très connu. Je sais pas si vous êtes capable de deviner, sur la BBC.
Star Trek.
La BBC.
Et
Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Je suis trop deep.
Non, ça, c'est plus à la radio, je pense. Là.
Doctor Who,
ouais.
Oh!
Trivia impossible à trouver, sinon je vous donne je sais pas quoi. Nom du premier épisode?
De Doctor Who?
Ouais, non.
Enfin, The Doctor?
C'est... Non, ça s'appelait An Unearthly Child. Earthly, en tout cas.
An Unearthly Child.
Earthly Child, merci pour la prononciation. Voilà. Puis là, j'avais un petit segment que j'ai rajouté, thématique hockey, j'avais pas le choix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'univers du hockey? T'sais, on y va avec le thème. 1929, Eddie Shore, très connu pour ses références dans Slapshot. Yes, Eddie Shore qui fait un record pour avoir eu 5 majors pour fighting dans la partie, donc 25 minutes de pénalité sur un match de 60. Donc je comprends mieux pourquoi est-ce qu'on en parle aussi souvent dans Slapshot.
C'est un homme dédié à la cause.
En 1977, les Kings célèbrent leur 300e victoire avec 4 buts en 2 minutes 21 du début de la première période. Donc, pour un score final de 8-3 contre les Blackhawks.
Ce qui n'a rien changé au fait que le Canadien a dû gagner la Coupe Stanley cette année-là.
Probablement, j'ai pas vérifié. 3 ans plus tard, en 1980, ça leur aura peut-être 3 ans, mais les Blackhawks se sont finalement fâchés pour compter 11 buts dans une partie contre les Whalers et finir 11-3.
Aïe, aïe.
88, Gretzky compte un but dans la partie, mais c'est son 600e but en 718 matchs. Quand même impressionnant. Puis de façon générale, le 23 novembre est la première journée, la journée la plus tôt dans l'année où est-ce qu'on peut avoir le Black Friday américain ou le vendredi afro-américain en français. Donc c'est la journée la plus tôt qu'on peut avoir dans l'année là, étant donné l'organisation de la Thanksgiving.
Okay, je cherchais ça comme c'est donc bien pas intéressant de savoir quand est-ce que le monde va aller se faire piétiner dans des Walmart.
Ouais, écoute,
c'est
pour ça. Des choses de même qui arrivent. Donc voilà pour l'univers de Divan Quest aujourd'hui.
Ben merci Danny.
Blade of Steel.
Ah!
Nice.
On a eu beaucoup trop de plaisir à faire les bumpers.
Chapeau.
Alors moi cette semaine, je vais vous parler de jeux de hockey style arcade que la plupart des gens connaissent pas puis qui méritent vraiment d'être connus. J'aurais pu parler de Newton League Hockey dans le tome, mais je le connaissais pas, fait que ça aurait été bien plus dur pour moi de vraiment parler. Donc, j'ai choisi 3 autres titres qui me sont plus familiers et qui sont. Ben, ça, qui valent la peine d'être connus. On va commencer. On va y aller chronologiquement. Donc, on va commencer avec, et je cite son nom exact, Ike Neketsu Okebu.
Sorti en boss aussi.
Exact.
En
boss, hein. Développé par un certain Raoul. Non, pas du tout. ce jeu-là aurait été connu en Amérique sous le nom de Crashing the Boys Ice Challenge. Mais ce qui est arrivé, en fait, c'est que le jeu est sorti au Japon sur Famicom, développé par Technos en 92. Jamais sorti ici, mais le jeu avait été teasé à la fin de Crash and the Boys Street Challenge, qui est un jeu d'Olympique de rue développé par Technos, qu'on a eu ici. Quand tu finissais un ensemble d'épreuves complètes, il y avait un petit segment, il y avait un petit logo splash screen qui nous disait « Soon, Crash and the Boys Ice Challenge », puis c'est jamais sorti. Puis moi, Street Challenge, c'est un de mes jeux préférés du Nintendo. Puis c'était toujours resté comme... C'était pratiquement devenu une légende urbaine dans ces temps avant les internets.
On pensait qu'il était sorti, puis on le cherche.
Exactement, on se disait, Christy, ben gars, il est là, il est annoncé, il
le
doit être sorti quelque part.
Le gars j'étais tanné de l'entendre.
le gars qui veut être cool dans le cours d'école, il dit que lui, il l'a essayé.
Ouais, c'est ça.
Et voilà, ben c'est sûr. C'est qu'il est cool. Et ce jeu fait partie de la série Kunio. Voilà. Fait partie de la série Kunio-kun. Pour ceux qui sont un peu familiers avec la Nintendo mais qui ne connaîtraient pas ce que c'est les Kunio-kun Games, on parle de River City Ransom, on parle de World Cup publié par Nintendo, le jeu de soccer. On parle de Super Dodgeball, on parle de, évidemment, Crash and the Boy Street Challenge. C'est des jeux qui avaient tout le même style visuel de personnage. Au Japon, se trouvait en fait avoir tout le même protagoniste qui s'appelait Kunio. Quand les jeux ont été localisés ici, bon, le nom a changé un million de fois. Crash dans Crash and the Boys, Alex dans River City Ransom, c'est supposé être le même personnage. Mais voilà.
Des fois, je comprends pas tout le temps les choix de localisation. Comme si on était pas capable de s'attacher à un protagoniste.
Et voilà. Mais il y a eu beaucoup d'efforts de localisation, c'est une parenthèse, là, mais justement, River City Ransom, les graphiques ont été beaucoup changés dans le jeu parce qu'ils portaient des uniformes d'école japonaise. Okay. Dans le jeu, puis quand ils l'ont amené ici, ben, c'était pas, ça représentait rien.
Fait
qu'ils sont avec des jeans puis des t-shirts, fait qu'ils ont tout changé l'art, fait qu'ils ont localisé les noms, puis il n'y a pas forcément eu d'entente par les équipes de localisation pour le reste. Donc le jeu, quoique relativement méconnu, est facilement le plus beau jeu de hockey au NES.
Ben, avec les sprites que tu décris, là, je les ai déjà vus, c'est des beaux sprites là, pour le NES surtout.
Ben, c'est ça, ils ont toujours eu des jeux qui étaient visuellement très très attrayants. Les personnages sont très très gros, sont détaillés, les animations sont très drôles, comme dans toute cette série de jeux-là. Par contre, ça nuit à la visibilité, on voit vraiment pas une grosse section de la patinoire, ce qui fait que bon, tu sais pas tellement ce qui se passe. C'est du hockey 3 contre 3 en plus, ce qui fait que souvent t'es quasiment tout seul dans l'écran. Là. Bon. Anyway, mais ceux qui ont joué à World Cup, le jeu de soccer, là, c'est semblable, la disposition d'écran, puis comment que la vision est un peu limitée. Là.
Mais en même temps, quand tu regardes les sprites, c'est quand même effrayant quand tu compares à genre Ice Hockey. Là.
Ouais, on c'est se joue la nuit. Là.
Non, ça, mais c'est vraiment, vraiment beau. Puis ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine d'être vu parce qu'il n'y a pas un jeu NES qui l'accote dans les jeux de hockey. Le jeu commence très 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 facilement. C'est excessivement facile. Les premiers tableaux, ça en est aliénant parce que tu passes plus de temps arrêté parce que tu scores sans arrêt. Ça grimpe assez vite la difficulté. Donc, si vous y jouez, endurez les deux premières games. La troisième va devenir pas mal plus fun à jouer. On est dans le très ridicule. Là. Chaque équipe est très 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 différente. On joue contre des samouraïs, des joueurs de baseball, des cheerleaders et bien d'autres que je gâcherai pas parce que la moitié du fun du jeu, c'est de découvrir contre quelle team tu vas jouer. Après chaque partie, on gagne l'option de porter l'uniforme de cette équipe-là qui nous donne des stats puis des moves spécifiques à cet uniforme-là.
C'est bien hot.
Ouais, c'est vraiment cool. Les petits samouraïs, là, ils ont vraiment comme des robes de samouraïs. Leur bâton, c'est une épée, là, probablement de kendo, justement. Puis ils ont un move, parce que tu peux sauter. Quand tu pèses les deux boutons en même temps, tu sautes. Puis si tu donnes un coup quand t'es dans les airs, ça fait une shockwave qui peut varger les ennemis. Il y a vraiment des moves hyper offensifs du genre.
Fait qu'on, c'est pas un jeu de hockey standard.
Il y a rien de ce que je vous parle qui est standard ici, OK? Ben en fait, c'est vraiment le plus far removed, mais quand même, non, il y a pas... C'est tous des jeux arcade, puis ils ont un focus sur le gameplay et jamais sur la simulation. Comme tu parlais tantôt, justement, de le fun d'abord et avant tout. Puis un peu en parallèle à ce que t'as dit tantôt, les jeux de hockey, au départ, ont jamais été simulation. Ça a fini par arriver par la suite quand le processing power a grimpé. Ouais. Mais avant, c'était comment on peut designer un jeu qui reprend l'expérience essentielle de c'est quoi le hockey. Puis c'est pour ça que je trouve ces jeux-là beaucoup plus le fun en général, parce qu'ils prennent le plaisir du hockey, la dynamique, mais pour tout le reste, le but, c'est de faire un bon jeu. Puis c'est ce qu'on fait ici, justement, avec un système de stats. Chacun de nos joueurs a des stats différentes, puis en plus, t'es bonifié avec les uniformes que tes joueurs portent. Ils ont même des barres de vie où ils peuvent finir étendus sur la glace. Ils meurent jamais. Ils reviennent ben crinqués.
Ils explosent pas en sang, là, comme dans Mutant.
Nope. Non, c'est ça. Si ta barre de vie tombe, tu peux tomber, rester étendu sur la glace jusqu'au prochain arrêt de jeu. Mais quand tu reviens, ton bonhomme, il a comme les cheveux drettes sur la tête, puis il est vraiment plus agressif.
Donc quand tu tombes, ça fait comme...
Et non, malheureusement. On assiste...
Fait que c'est pas bon de coucher les autres joueurs, mais ça va le regretter.
Faut pas abuser de varger sur un joueur. Il y a quand même des pénalités, ils sont excessivement rares, mais il peut avoir des punitions, puis tu perds ton joueur longtemps. Mais anyway, j'en parlerai pas plus longtemps que ça, parce que c'est plus une curiosité que d'autres choses. Puis pour moi, ben, c'est une espèce de mystère qui a été résolu quand on a pu avoir accès à Internet puis tout. Ça vaut la peine d'être joué, mais mettez pas votre temps là-dedans. Il y a des beaucoup meilleurs jeux de hockey que je vais vous parler. Puis anyway, si vous voulez jouer à du hockey au NES, ben Blade of Steel. Hein? Voilà, c'est pas mon bumper pour rien. Là. C'est,
même,
c'est un des meilleurs jeux de hockey, point. Donc, on avance dans le temps. On se retrouve à 1995 dans les arcades où on parle de 2-on-2 Open Ice
yes.
Challenge.
Ah, on est à peine entendu parler de ce jeu-là.
Comment me faire sacrer une volée par Matt?
Voilà.
C'est une leçon d'humilité.
Virtuellement. Parce que sinon, je peux te montrer d'autres façons.
C'est, on en a déjà parlé quand on a fait notre visite à Arcade Montréal dans les premiers épisodes, il me semble, il y a si longtemps.
Si longtemps.
Ce jeu-là, je l'adore. Il y a juste une façon de le décrire, c'est NBA Jam avec du hockey. Mais pour faire un petit peu le survol de...
Mais sans Al Gore.
Sans Al Gore.
Malheureusement.
Malheureusement. Voilà. Sans toute la liste de présidents.
Pas vraiment, là.
Le jeu, ben, pour faire un petit peu l'historique, c'est un jeu publié par Midway Games, sorti en 95 en arcade. Il y a également une version sur PlayStation, sortie en 96. Les deux versions sont quasi identiques, mais les joueurs et les équipes ont été mis à jour pour représenter la saison 96-97 dans la version PlayStation, plutôt que la saison 95-96 qu'il y a dans la version arcade. Fait que ça veut dire pas de Patrick Roy puis pas de Vincent D'Anfos à Montréal. C'est pas la seule raison que je vais faire ma recommandation, là, mais jouer en version arcade sur un émulateur. C'est une meilleure expérience, pas de loading, le produit plus cohésif, puis c'est pas mal plus faisable de jouer à 4 joueurs aussi.
Puis l'expérience de jeu côte à côte sur un arcade est dure à
Mais même sur un émulateur avec des manettes, à cause le loading est terrible sur la version PlayStation, on se fait balancer entre des menus puis des interfaces d'arcade, ça file un petit peu rabouté. Okay. Donc, go version arcade. Fait qu'en résumé, comme je disais tantôt, NBA Jam de hockey, 2 contre 2 plus les gardiens de but, ce qui fait qu'on peut jouer jusqu'à 4 dans la version arcade. Je sais pas si la version PlayStation a de quoi de semblable, prendrait le multitap dans le code, là, j'en ai aucune idée. Mais oui, jouez-vous. Okay? Fuck le PlayStation, jouez à la version arcade. Bon. Fait que malgré que ce jeu-là a jamais connu l'ampleur d'NBA Jam, je considère que c'est le meilleur des deux jeux. Pas parce que, oui, ça l'aide parce que je suis fan de hockey, là, mais les systèmes de jeu sont beaucoup plus clairs vu qu'on n'est pas en train de sauter 10 pieds dans les airs à savoir si t'es aligné face à l'autre joueur qu'on essaie de le bloquer. Donc, c'est plus clair qu'on va bloquer une passe quand on met notre bâton à terre. Si le puck passe là, tu l'arrêtes. Puis les mises en échec, parce que les joueurs sautent dans les airs pour étamper un joueur dans la bande, sont vraiment drôles. Juste pour ça, hein, ça a mon vote. Comme dans NBA Jam, après une série de buts et de mises en échec, un joueur peut tomber on fire, ce qui le rend très, très, très difficile à arrêter pour les 3 prochains buts dans ce cas-ci, où est-ce que le fire tombe automatiquement. Créant justement des dynamiques de jeu, ce qu'il faut que tu empêches le joueur de scorer, même si ça te met pas en danger, parce que ça peut changer le momentum du jeu. Le jeu a plus de profondeur qui pourrait paraître à première vue, parce qu'on a une variété de tirs qu'on peut faire selon la position du joystick. Puis pendant le tir, on peut. Bref, ça nous permet de faire des tirs du poignet, des lancers frappés, selon quand même le joystick est positionné, puis le timing qu'on paye sur le bouton. Donc à première vue, tu t'en rends pas compte, tu joues, mais tu te rends compte que les gardiens finissent par devenir efficaces. Puis que tu peux aller un peu plus loin que ça. D'ailleurs, si un goaler mange un puck d'en face, il tombe à terre pendant une seconde ou deux. Fait que tu peux en profiter pour scorer. Fait que ça peut faire partie de ta stratégie carrément. Également, il me semble que je dis rien que ça depuis tantôt, comme dans NBA Jam, on peut conserver notre progression. En fait, comme dans NBA Jam et comme dans Gauntlet Legends, c'est le même système, on peut conserver notre progression, même dans la version arcade. On entre nos initiales, notre date de naissance. Ça fait juste garder nos stats, en réalité. Donc, on sait... quelles équipes qu'on a vécu, puis le but c'est de battre toutes les équipes de la Ligue nationale pour avoir une game de Coupe Stanley, ce qui nous donne une raison de jouer en solo ou en coop aussi, qui est pas strictement compétitif, ce qui est le fun pour les jeux de sport, parce que oui, c'est super le fun en groupe, à deux ou plus, mais des fois t'as le goût de jouer tout seul pareil, puis ça manque de purpose.
Ouais, vous m'emmenez moi contre toi après 2-3 fois me faire démolir 28-0, vous m'emmenez
Soyons honnêtes aussi, c'est un incitatif aux gens en arcade à investir de plus en plus de 25 dans la machine.
Ouais, exact, ça donne une raison de continuer à jouer. Donc c'est ça, c'est un must-play d'arcade, c'est très très drôle, puis c'est trop peu connu, donc je t'ai dit un œil si vous êtes intéressé par les jeux de hockey. Et finalement, on y va avec NHL Hits 2003, qui est probablement la recommandation la plus facile du tas à faire. Sorti en 2002. Par Midway Games, encore une fois, encore. Sur PS2, GameCube et Xbox original. C'est le deuxième jeu de la série Hits. Il y a eu NHL Hits 2002, et il y a eu après ça NHL Hits Pro. Donc on a droppé les années. Okay. Ouais. Pas par le même développeur d'ailleurs. La série NHL Hits se veut la version hockey de la série NFL Blitz, qui se veut la version football de la série NBA Jam. Ce qui fait donc que NHL Hits est le successeur très indirect de 2-on-2 Open Ice Challenge, mettons.
On a suivi.
Fait que c'est basé sur la même idée de créer un NBA Jam des autres sports, mais cette fois-ci, on y va avec beaucoup plus de variété. Parce que c'est ça a un gameplay très très arcade encore une fois, mais c'est pas un jeu d'arcade. Donc il a été conçu dans l'idée de donner de la longévité sur un jeu de console.
Ouais, puis là t'as nommé GameCube, Xbox, puis
PS2.
Fait que là-dessus, il y en a quand même deux qui jouaient à 4 manettes nativement.
Exact. C'est ça, donc on a une plateforme parfaite pour ce genre d'expérience-là. Puis, en le faisant pas pour l'arcade, ça devient clair que c'est comme, bon, mais comment qu'on donne une expérience console valide? Je vous en parle un petit peu tantôt. On a le même concept, encore une fois, que ces jeux-là, sauf que là, c'est du 3 contre 3, assez peu de règles, jeu très très rapide, no bullshit. On a encore un système de on fire, sauf que cette fois-ci, la barre, si elle est à moitié, on a un joueur qui peut devenir on fire et qu'on le déclenche nous-mêmes au moment qu'on veut. Et si la barre est pleine, on a un team fire, parce que l'équipe au complet. Ça peut s'appeler un fire, mais c'est un éclair qui arrive. Bon, on voulait garder.
Ça tunera pas pour deux, trois affaires. Là.
On voulait garder nos standards. Voilà. C'est. Je pense que c'est le plus efficace d'un jeu de hockey style arcade parce qu'il prend les conventions établies d'un jeu de hockey, même simulation, des styles NHL puis tout ça. Puis il nous garoche la vitesse au fond. Puis il n'y a pas de. Tu sais, les jeux de hockey sont beaucoup basés sur les stats à cette heure où est-ce que tu fais un poke check mais tu manques parce que ton jet de dé en réalité manque. Il y a tellement de stats style RPG que t'es pas tellement en contrôle. Là, il n'y a pas de bullshit comme ça. Un poke check, ça marche. Une mise en échec, ça marche. Un tir, ça passe. Bon, les règles sont très très claires. Ça fait que c'est un meilleur jeu qu'un jeu de hockey. C'est ça qui est important quand tu fais un jeu vidéo. Donc, ce qui fait que le jeu se distingue à un niveau énorme, c'est qu'il est, comme j'ai tantôt, designé pour les plateformes de salon. Là,
j'ai ce qu'il y a du gameplay, puis là, il y a comme une bataille entre un. Ben, entre Pavel Bure, puis un gars à tête de cheval, là.
Un gars en salopette sous d'hockey avec une tête de cheval qui s'appelle Blax McNeil.
McNeil.
C'est de toute beauté.
C'est le cheval qui gagne.
Ben c'est exactement ce que j'allais parler en passant. On peut personnaliser nos joueurs de notre équipe. On peut choisir directement dans la liste des noms que l'annonceur peut dire. Puis il y a un paquet de noms vraiment fuckés qu'il peut dire. Puis tu choisis comment il va appeler ton joueur quand il a le puck ou quand il fait un tir.
Je vais me répéter, mais ça me le prend, là.
On peut choisir aussi le chandail de l'équipe. Puis on peut choisir aussi le surnom de l'équipe. Donc on a toute une liste de noms qui peut être dit par l'annonceur. On l'a choisi, puis c'est ce qui devient le call par les commentateurs qui sont évidemment excessifs, comme le jeu. Et dans la panoplie de modes de jeu entre les mini-jeux, on va y revenir. Le mode franchise, on peut déverrouiller 120 goodies pour personnaliser notre équipe. Que ce soit leur donner une tête de requin ou d'extraterrestre, ou carrément les changer en démons de la tête aux pieds. Okay, une team de hockey de démons, qu'est-ce que tu veux d'autre? Okay.
Puis les animations sont fluides. Là.
C'est un beau jeu. Cool, ouais. C'est probablement visuellement le plus beau jeu parce qu'en même temps, 3 contre 3, ça donne plus d'espace pour les graphiques. Donc il y a vraiment impressionnant visuellement pour un jeu qui est aussi niaiseux en réalité. Le mode franchise donne une raison de jouer à long terme. Il nous offre 250 pièces d'équipement qu'on peut déverrouiller qui donnent des bonus de stats. Donc on peut équiper à nos joueurs dans une espèce de petite gestion RPG où est-ce qu'on va builder les profils de nos joueurs. Dans ce mode-là, le mode franchise, on voyage à travers le monde pour affronter des équipes un peu partout, mais on n'a pas juste à vaincre les équipes la plupart du temps. Souvent, on a 3 objectifs additionnels qu'on doit remplir, genre faire un nombre de mises en échec, faire des buts avec des tirs sur réception, etc., pour réussir à battre complètement l'équipe qui va nous permettre de débarrer du gear additionnel pour nos bonhommes, etc. Chaque endroit sur la map, il y a des équipes en fait pour chaque segment, il y a des équipes boss à battre. Puis c'est à ce moment-là qu'on donne le nouveau stock en fait. Dans les mini-jeux que je mentionnais tantôt, c'est aussi fucké qu'une game de keep away là, où il faut que tu gardes le puck le plus longtemps sans te faire attaquer, ou t'as fucking game d'auto-tamponneuse, sauf que tu remplaces les chars par des goons en patin puis tu te rentres dedans là. Faut que tu fasses sortir les gants en dehors du petit rond.
On s'entend qu'il n'y a rien de désagréable là-dedans.
Ben voilà. Puis t'as même des shooting galleries où il faut que tu
tires. Le cheval, il a encore étendu un joueur.
Sacré Blax McNeil.
Pour moi, il est basé sur Eddie Shore.
Fait que c'est cave, c'est le fun, puis avec des chums, c'est complètement pissant comme jeu.
Puis il y a petit update de prix.
Ben, j'allais dire, c'est super facile à trouver, puis ça coûte fucking rien. Là.
GameCube, Xbox, les deux, là, complete 20$.
Ben voilà, moi je me rappelle, là, 4 ans à peu près, je pense que je l'ai ramassé en 360 ou EB Games pour 5$. Là. Parce que, fuck it, c'est un jeu de sport annualisé, c'est écrit 2003 au bout.
Ah ouais, c'est
fait
ça.
Fait que cancel ça. Puis, je regarde encore le footage.
Je regarde le footage, puis le goaler a pris la puck, puis il s'est fait passer à travers la bande par un camp adverse.
Ah, puis les goalers là, sont assez habiles pour stick and lay, fait que tu peux scorer avec ton goal aussi. Là. Puis, ah non, c'est que de plaisir. Là.
Mais c'est moi, j'aime ça les jeux de hockey. J'aime ça les jeux de hockey. T'sais, j'aime jouer aux jeux de hockey plus que j'aime regarder une game, mettons. Mais j'avoue
que. Peux-tu dire jeu de hockey encore une fois, s'il te plaît?
Jeu de hockey.
Merci.
Dernièrement, comme tu disais tantôt, là, on est rendu dans l'hyper-réalisme. Puis quand j'ai joué, mettons, dans les dernières fois, je mettais les contrôles à, mettons, classique, là, où est-ce que tu n'avais pas les boutons pour handler ton bâton, puis tout ça. Puis je regarde ce jeu-là, puis c'est le genre de jeu que j'aurais vraiment aimé connaître puis jouer avant. C'est ça, c'est du gameplay le fun, c'est du gameplay arcade, c'est rapide.
C'est quel genre de jeu?
de hockey.
Okay.
De hockey. Ça s'inscrit dans la lignée des jeux de hockey.
C'est drôle parce que c'est comme une joke de ce que JF a dit.
Ah!
Voilà. En passant, pour ceux qui ne comprendraient pas la référence du cri, c'est dans Blade of Steel Nintendo, quand ton bonhomme se fait étamper après une fight, c'est toute l'émotion qu'il réussit à générer quand il tombe à terre. Voilà. Alors, c'est ça ce que j'avais à vous présenter. C'est vraiment juste des vignettes que j'ai faites là parce que je pense que si on est vaguement intéressé par les jeux ou qu'on est curieux de ce qu'un jeu de sport peut être quand on est en train de la simulation, de comprendre comment designer une expérience basée sur un thème plutôt que d'essayer d'en faire une simulation, je pense que c'est trois beaux exemples.
Ce qui est vraiment bien.
Réflexion.
Réflexion
sur la semaine. Ah, c'est impressionnant.
Mon Dieu.
comme à chaque semaine, je passe en revue les événements de la semaine pour y trouver matière à réflexion, en fait. Puis évidemment, cette semaine, on ne fait pas vraiment passer à côté du déversement des eaux usées dans le fleuve. Mais je me suis dit que toutes les gags...
Voilà. Je suis content d'avoir mis
ça. C'est la fin du segment, merci.
That's it, merci, bonsoir.
C'est une idée de marde, ça.
Non, mais je me suis dit que toutes les gags de caca, justement, et de merde avaient déjà été faites. Fécal à plage, j'ai choisi de réfléchir à un événement survenu il y a déjà deux semaines. Donc, j'ai décidé de porter ma réflexion sur la sermentation de notre nouveau premier ministre, M. Justin Trudeau.
Ce n'était pas une opinion, c'est juste un son. Hein?
Donc, en fait, en regardant M. Trudeau traverser à pied Queen's Park pour se rendre au Parlement le matin de son assermentation, j'ai eu une pensée pour sa mère Margaret Trudeau, Saint-Clair, de son nom de jeune fille. Quelle grande femme! Elle a marié un premier ministre, elle en a mis un autre au monde. Quand on y pense bien, ça fait beaucoup de premiers ministres dans un même vagin. Mais comme on n'est pas un podcast, ça s'avère qu'il est purement politique ou anatomique, je me suis permis de m'interroger sur le rôle des grands leaders politiques dans le domaine des jeux vidéo et j'ai noté quelques cas particuliers, en fait. Donc, rapidement, ma réflexion, c'est...
Le lien était quand même intensément loin.
Non, mais j'ai pris le temps d'écrire ça.
T'as fait un gag de Al Gore tantôt dans The Agent.
Non, mais donc, rapidement, ma réflexion s'est portée vers la série de jeux Civilisation, où les Alexandre le Grand, Attila, l'impératrice Catherine II de Russie, Mère Teresa, Napoléon et George Washington de ce monde, ils se font la course pour être les premiers à écraser les archers et la cavalerie ennemie avec leurs chars d'assaut, leurs fusils automatiques et leurs bombes nucléaires.
T'as oublié Gandhi.
Gandhi aussi, de temps en temps, oui.
À l'université.
C'est un grand leader militaire.
Quand on jouait à Johnny qui se faisait comme. Le plus grand des plaisirs à détruire Gandhi à chaque fois pour que notre autre ami qui a de la descendance indienne fait comme « Mais là, t'as tué Gandhi! » Fait qu'à chaque fois, il faisait juste parce que...
Bon, mais moi, okay. je me suis toujours plus senti attaché à Mère Teresa parce que j'ai sur moi des linges à vaisselle dans la cuisine chez nous.
Là. Oh!
Ça, c'est le bout du podcast parce qu'on reçoit des plaintes.
C'est ça.
Je vous donnerai l'adresse à la fin.
Fait qu'on va continuer avant de traîner nos petites créances. Fait que dire de Bill Clinton? Évidemment, grand amateur de basketball, ben M. Clinton, dans les années 90, était un personnage caché dans la version 2-on-2 de NBA Jam, un petit peu comme ça l'a mentionné tantôt Danny, avec des statistiques qui lui permettaient de slam dunk aussi bien que Michael Jordan ou Shaquille O'Neal. On a donc fait un scandale pour rien. Monica voulait juste être la next à jouer avec son joystick.
Non!
Oh. Puis, ma réflexion s'est terminée, en fait, sur une mention toute spéciale au maire Mike Agar, qui est un des combattants de la série Final Fight, une montagne de muscles, ancien lutteur, qui, plus tard, a été élu maire de Metro City, jusqu'à ce que des brigands kidnappent sa fille, puis qui décident de retourner dans les rues pour essayer de la sauver. Ce qui fait de M. Agar le maire avec les plus puissants pile drivers de l'histoire de la politique municipale.
Le premier maire en chest aussi.
Le premier maire en chest, effectivement.
Mais ça serait un beau combat quand même, là, ce maire-là, dont j'oublie le nom, contre la bombe, mettons.
La bombe, oui. Mais pourquoi pas?
Trembler.
Pourquoi pas? Mais ça ferait un beau match pour remplir le centre Vidéotron, peut-être.
Ouais.
J'aurais fait un match pour, avec Coder, mais ça aurait été plus un match pour remplir le fleuve.
Mais parlant de M. Coder, je me suis dit que si M. Coder, nous écoutait, ben je tiens à l'encourager, lui aussi, à se tailler une place dans les annales de l'histoire du jeu vidéo en acceptant de venir en aide au projet Barcade de Papa Cassette. On sait jamais, peut-être que dans 10 ans, il y a trois morons dans un sous-sol qui vont enregistrer un podcast et parler de Denis Coder comme ayant marqué l'histoire du jeu vidéo à Montréal.
Que ça mérite des applaudissements.
Hey, j'ai monté de level. Hey, cette semaine, ben, on faisait un podcast sur la thématique de hockey.
Fait que vous êtes calme, les gars.
Fait que j'ai décidé de détourner le sujet, un peu. Puis de vous parler de, comment je l'avais appelé, la coupe Kessel Run version 2016. Donc, game de hockey dans l'univers de Star Wars. C'était un peu mon idée. C'était pas mon idée à moi, là, ça venait d'une autre discussion, mais l'idée de ce que je voulais amener dans l'univers de hockey. Donc, ce que je commence un peu, c'est... on va commencer par se décrire un petit match de hockey dans l'univers de Star Wars. Je fais un peu la description du match, là. Ne vous en faites pas, je ne suis pas si bon que ça, mais je vais essayer de rendre ça amusant. Puis à la fin, je vous questionnerai sur vos équipes de cet univers-là aussi, comment vous feriez vos joueurs.
Allons-y.
Donc, partons, on est tous contents, on s'en va au centre Holocom de Coruscant. Donc, tout le monde est content, les enfants sont énervés. Ceux qui l'ont pas replacé, là, c'est dans le fan-film qui dit pas. On s'installe dans les gradins. C'est une game de l'Alliance Rebelle contre l'Empire. Hein? Duh, je vais faire une game de Star Wars. Je prendrais pas les deux pires.
Tu vas pas faire les Gun-Gun contre.
Non, ça existe pas, ça.
Excusez. Fan-film.
Donc, les joueurs se préparent, se réchauffent. On est prêt à partir la game et on part l'hymne national.
C'est un peu agressif quand même.
Agressif, c'est l'hymne national, c'est la marche impériale faite par 10 lecteurs de floppy.
Ça sonnait comme un soundtrack de Genesis. Là.
Mais non, c'est des lecteurs de floppy. C'est à peu près la même chose. Comme à chaque fois que l'hymne national qui joue puis que pour toi c'est important, il y a un épée à côté de toi qui parle, fait que tu peux y dire des choses comme.
Écoutez l'hymne national.
Oh god.
Donc, on se rappelle là, que depuis la dernière saison, les Force Users ont plus le droit d'utiliser leur pouvoir là, parce que la finale a fini en game de Pong entre les deux goalers qui se pitchaient la puck. Fait que c'est plus intéressant. On a enlevé ça. Plus le droit d'utiliser les pouvoirs. Donc, voilà. On part. Les gens prennent leur place. On a nos goalers startants. Nos goalers de départ. Donc, du côté de l'Alliance, on a Chewbacca qui est là. Bon, je sais, c'est peut-être pas celui qui serait le plus agile. Mais une fois sur deux, quand quelqu'un monte en échappée, il se passe quelque chose comme ça. Et du côté de l'Empire, le goaler est Jabba the Hutt, hein, parce que fuck it, hein, pourquoi essayer de faire autre chose que de bloquer le but complet?
On a aussi les copyrights pour tout ça?
Au pouce carré.
Non.
Pose pas la question, on n'a pas besoin d'y répondre.
Ou pas. Donc, début de la première période, la game commence et rapidement, on a un premier but compté par Han Solo pour les rebelles. Rapidement suivi par Greedo qui contre-attaque et compte un but pour l'Empire. Étrangement, 20 minutes plus tard, pendant le montage des faits marquants de la première période, tout d'un coup, c'est Greedo qui compte en premier. Je sais pas ce qui se passe.
Oh, ça, c'est un statement controversé. On va recevoir des emails de plaintes.
Voilà, je serais content, on n'a pas
c'est pire que Mathérisa, ce que tu viens de faire là.
Donc, voilà. Si on continue par la suite, Vader qui rappelle à Leia en passant à côté d'elle qui a fait sauter sa planète, hein, puis en profite pour lui voler la rondelle et aller compter. C'est 2-1 Empire. Peu de temps après, Obi-Wan se laisse plaquer dans la bande par Vader qui se défend pas non plus, donc permet à Luke de faire une montée avec Han et Leia pour compter. C'est 2-2. Luke se retrouve tout d'un coup après ça en échappé sur un autre trio avec Wedge et Biggs. Donc ils partent de leur côté dans leur zone à 3 pour tenter un but. Et l'amiral Akbar leur lance ce message. It's a trap. J'avais pas le choix. Hein. Donc leur montée semble prendre une éternité. Tout d'un coup, Luke se ramasse tout seul, mais il est poursuivi par Vader. Vader se fait ramasser par derrière, par Solo. Hein. Mais l'arbitre a rien vu. Il s'est trompé entre son casque de hockey et le casque d'entraînement Jedi de Luke. Donc il voyait rien. Il a pas vu l'attaque par derrière. Donc Luke finit son échappée compte en tirant sa rondelle dans la toute petite ouverture de Jabba. Je veux dire, dans la toute petite ouverture laissée par Jabba. C'est 3-2 Alliance. De la première période.
C'est l'Horn à Montréal, ça?
Ouais, c'est l'Horn à Montréal. On a ici un fan. C'est l'Horn pour le but, là, mais... l'entracte entre la première et la deuxième période, on a C-3PO et 4 Battle Droid B-1 qui font du patinage artistique. Hein, pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Ça serait de la très bonne...
C'est bon divertissement.
Divertissement garanti.
Typical.
Donc, début deuxième période, la période commence rapidement et on donne une pénalité de 2 minutes à Luke pour bâton élevé contre un Wampa.
OK. OK, sure.
Daniel, je... C'est pour moi, là. C'est pour moi, je t'écris.
C'est écrit. Pas comme c'était moi qui l'avais écrit, mais je t'écris. Donc, l'Empire profite de la supériorité numérique pour sortir leur AT-AT. Ah, je sais pas si vous comprenez, avoir un peu la thématique des périodes. Hein? Ouais. Donc, les AT-AT donc, s'engagent en supériorité numérique. Solide mise en échec du trio de Rogue Squadron qui font planter deux AT-AT en leur ramassant les jambes. Encore une fois, on sait que c'est pas légal, mais l'arbitre est distrait. Il s'obstinait sur Reddit à propos du Kessel Run en 12 parsecs en disant ça n'a pas de sens, c'est une unité de distance, pas une unité de temps. Bref, il était sur Reddit. Hein? Bref, il restait un AT-AT qui a pas planté, qui a quand même compté un troisième but. 3-3, mesdames. Luke se fait blesser là, pendant cette partie-là. Il part du banc en compagnie du soigneur Yoda, hein, qui s'en va l'aider. Yoda qui était tout un compteur dans son temps, mais maintenant, on dirait que c'est une marionnette.
est-ce que c'est une blessure grave?
Pas tellement, je pense qu'il est juste parti renforcer son poignet.
Son équipement. Son équipement.
Donc, pour remplacer Luke, Lando Calrissian embarque sur la glace, mais à ce moment-là, il est pas trop certain pour quelle équipe il joue. C'est pas clair.
C'est-tu raciste, ça? Oh!
As-tu vu le film?
ça peut pas être raciste, c'est le seul.
Mon truc, c'est controversé à soir.
Écoute. Donc, solide mise en échec où le Vader contre Solo qui se fait complètement geler dans la bande.
Hey, sérieux, les gars, vos deux segments, je cringe depuis 20 minutes.
Il sera pas de retour pour le reste de la période. Vader en profite pour compter, c'est 4-3 Empire. Retour de Skywalker qui semble pas tout à fait prêt, hein, mais qui veut quand même reprendre le jeu, un peu comme Pierre Lambert à la fin de la première saison de Lancer Compte, hein, qui revient au jeu.
C'est bien de préciser quelle saison.
La première saison, ouais, une de celles que j'ai écoutées. Lando finalement montre qu'il est réellement avec l'Alliance, prend la rondelle et marque pour créer l'égalité 4-4. Mais à ce moment-là, Vader repart en échappée, suivi de près par Skywalker qui le dépasse pour tenter de le stopper, pour tenter de stopper en fait un tir qui lui ricoche sur le poignet et lui brise complètement la main. C'est le but de l'Empire par la suite, 5-4 Empire.
C'est super nice qu'à la deuxième période, c'est l'Empire qui gagne.
Il fallait, hein?
C'est pour ça que c'est ma période préférée. Je suis pas un fan de l'Empire, mais ça donne un ton plus dramatique à la game.
Les commentateurs ont appelé cette période l'Empire contre-attaque. Facile. Début de troisième période, Luke revient au jeu malgré sa blessure au poignet.
Je serais allé avec l'Empire Powerplay.
Mais... Powerplay, c'est bon. Donc Luke revient au jeu malgré sa blessure au poignet, avec Leia aussi, là, il perd sa défense de l'Empire, qui avait sorti sa ligne défensive de Gamorrean et de Rancor, hein, parce que on sort les gros canons en troisième période. Solo se remet de son plaquage tout d'un coup, on dirait qu'il revient au jeu. Ça y a pris quand même du temps, se remettre, c'est un gros plaquage, hein, c'est quand même Vader. Embarque sur la glace et compte pour 5-5, refaire l'égalité. Boba Fett regagne la mise au jeu rapidement après ça. Pour rapidement se rendre au but et compter. Par contre, il continue sa course dans le but, hein, et se fait expulser du match pour avoir tenté de blesser le gardien. Le but est refusé.
Yes!
L'Alliance sort son quatrième trio, rendu là une bunch de Ewoks. Ça dépasse clairement la limite de joueurs sur la glace. Mais encore une fois, l'arbitre semble pas s'en rendre compte. Il regardait une spectatrice déguisée en esclave. Oui, voilà. Donc les Ewoks s'occupent de la défensive de l'Empire, puis ça permet à Han Solo et à Leia de compter. C'est 5 Alliance. Luke et Vader se retrouvent dans un duel intense où ils s'échangent la rondelle pendant très longtemps, et le coach Palpatine pendant ce temps-là crie des bêtises de son joueur étoile, crie après eux. Vader se tanne, se revire de bord, compte dans son propre but pour créer dans le fond briser l'égalité. C'est 7-6 Alliance. Suite à sa défaite un peu controversée, l'Empire fait une conférence de presse et tout ce qu'il trouve à dire, c'est cette réplique.
Execute Order 66.
Voilà. Si on regarde un peu les line-up que j'avais là, pour se donner une idée, pour partir après ça un peu avec vos idées, du côté de l'Alliance, j'avais un premier trio de Solo, Skywalker et Leia. Un deuxième trio avec Skywalker, Biggs et Wedge. Oui, Skywalker est partout, mais tu sais, c'est ça qui arrive, hein, quand t'es une grosse vedette. Notre quatrième trio, c'était une gang d'Ewok. En défensive, j'avais Obi-Wan, là, qui a pas été là longtemps, qui s'est fait ramasser, qui est disparu. Lando aussi, là, qu'on n'était pas trop certain, mais tout à ça. Et dans les buts, Chewbacca. Du côté de l'Empire, on avait un premier trio qui était Greedo, Fett et Vader. malgré que Guido n'a pas fait rien après son premier but, il était là quand même. Deuxième trio, pour le trio de l'avantage numérique, les trois ATAT, c'est comme sur une glace, c'est impressionnant. En défense, on avait une première ligne de défense avec les Wampa. Hein, c'est aussi c'est des créatures impressionnantes. Puis l'autre trio l'autre ligne de défense, là, les Gamoréens avec un rencard. Donc ça ressemblait à ça. Hein. Dans les buts, Jabba de Hutt, c'est certain. Même s'ils prenaient tout le but, on arrivait à compter. Je sais pas de quelle façon.
Pour,
mais c'est comme
pour
ça.
Les besoins de la cause.
Pour les besoins de la cause.
C'est ce qui est choqué, c'est lui.
Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. De votre côté, les gars, on aurait vu qui dans une game de Dieu. Hockey avec les.
Ben, vas-y, Jeff, parce que je suis arrivé extrêmement préparé.
Ben, moi de même.
Ben, écoute-moi, c'est sûr que je veux Yoda comme mascotte, là.
Si moi, je pensais. Moi, j'allais prendre ça d'un autre côté. Je pensais mettre, genre, R2D2 pour distribuer le popcorn dans les estrades.
Ah, pour fou.
Parce qu'il nous a prouvé sa valeur en tant que waiter sur la barge de Jabba.
Ben oui, hein,
exactement. Il y a de l'expérience.
Il y a de l'expérience. On a vu sur Andorre que C3PO avait des grands talents d'orateur. Mais moi, j'aurais mis C3PO au commentaire sportif.
C'est pratique, tu peux faire le commentaire sportif en 6 millions de langues.
À place de Michel Lacroix en haut, Sandel, qui annonce les buts puis les punitions.
C'est pas 6 millions de dialectes, en fait.
Ah, oh, quelque chose comme
ça. Oh, sacrament.
Non, mais quand même, c'est important.
Moi, j'aurais dit.
J'avais effectivement prévu aussi mettre Jabba dans devant le filet.
C'est dur de passer à côté.
C'est dur de passer.
De toute façon.
Parce que c'est littéralement dur de passer à côté, effectivement. j'aurais mis le band de la cantine de Moses Lee, j'ai oublié leur nom. Ah. En fait, comme pour faire la musique d'ambiance.
C'est clair,
ça
aurait été
parfait.
Il s'appelle genre Jizz Something en plus. C'est vraiment
mais oui, c'est une bonne idée.
Puis, avec la chanteuse Size Noodles.
Ouais, mais c'est ça, mais c'est là que j'allais avec la chanteuse qui chante le Jedi Rock là, dans les remakes des années genre dans 2000, quelque chose comme ça. Qui aurait pu chanter l'hymne national en fait au début.
Punition pour avoir fait une référence aux éditions spéciales de Star
Wars.
Non,
mais j'aurais fait chanter l'hymne américain, puis j'aurais quand même invité Ginette Renault pour chanter l'hymne canadien.
C'est legit.
C'est sûr qu'on peut la trouver en quelque part dans l'univers de Star Wars, c'est sûr et certain.
Oui, moi, c'est l'hymne national!
C'est délai.
Ben, c'est ça. Mais sinon, sur la glace, c'est sûr que... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié mon... j'aurais mis Wedge sur la Zamboni. Ça prend, oui. Ça prend beaucoup moins de temps entre les périodes. Il fait ça juste une gosse. Puis,
hashtag Yingsun Gosse.
Yingsun Gosse. Puis ton premier trio, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Luke, Han Solo, puis Leia. Quand même. Puis je mettrais comme premier défenseur, je mettrais un Chewbacca et un Lando Calrissian en arrière. Je pense que ça ferait un bon line-up.
Je pense que.
Puis il joue pendant les trois périodes. Parce que
c'est ça, j'allais dire. Moi, j'aurais pas fait plusieurs lignes, là, parce que, comment, c'est pas des topettes.
Ouais, mais tu sais, il fallait avoir des Ewoks, là.
Puis tu sais, on remarque à travers la partie, il y a une belle amélioration, puis ils finissent par comprendre leur rôle, puis ils finissent par des découvertes de leur propre personnalité, puis ils s'impliquent de plus en plus dans le match. Ils finissent par patiner, aller jouer dans les coins, finalement.
En tout cas,
comme mon Dieu, tu parles pour rien dire. T'as écouté beaucoup d'RDS, t'as préparé.
J'avais pensé aussi dans les buts là, du côté de l'Alliance, mais bon, j'ai décidé de revenir après ça en commençant à faire des blagues. Je me suis recentré un peu sur les films. J'avais mis dans les buts, sinon, Ahsoka Tano.
des Clone Wars.
Bon, elle a peut-être pas de pad, mais elle a deux bâtons, puis elle arrête toute pareille.
Ben, moi, je mettrais pour les rebelles, parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe en dehors de cette période-là, s'il vous plaît.
Voilà.
J'aurais Porkins dans les nets.
Ah, c'est bon.
Ça lui permettrait de manger son PFK tranquille, pendant que l'action est de l'autre côté. Puis fuck it, moi, je mets le Rogue Squadron au complet en avant. Il y a déjà un uniforme qui match, hein? Contrairement à vos hosties de niaiserie, là. Ils ont tous des beaux sauts orange. Ils ont des casques en plus. Ils sont tout prêts. Voilà. Mais j'entends dire qu'ils ont tendance à se faire blesser rapidement. Là. Ah! Ben, en fait, ça fait.
Ah!
Le temps.
J'avais pensé, comme arbitre, faire une blague, mais finalement, je me suis dit, je vais me faire pitcher dehors. Ils voudront plus me réinviter sur le pod. Mettre Jar Jar comme arbitre, puis avoir plein de.
Punition pour référence aux prequels.
Ben, le gars là, dans Infinity, il est dans Carbonite. Là.
Bon, je sais pas, je pensais que c'était une joke. Là. Je la comprends pas.
Un gros mofoné, ma blague pareil. Là. ça aurait expliqué toutes les raisons de pourquoi il fitait pas. En même temps, je trouvais ça plus drôle de faire des blagues de Reddit.
Ben, moi, je vais prendre une pénalité moi-même aussi parce que je pense que je vais référer aussi aux prequels. Je pense que pour remplir notre auditorium, quoi de mieux que les 800 000 clones de.
Ah, je pensais que t'allais dire les sénateurs. Je parle pas des centres d'Ottawa, je parle de la salle du Sénat. Là. Bon, avec.
Voilà. Pas fou, c'est vrai.
Ben c'est ça, fait que de toute façon ça, c'est une autre référence au prequel, fait que ça mérite une punition.
Mais du côté de l'Empire là, vous auriez vu qui? À part Vader qui
est moi je mettrais en défense les deux dudes rouges avec les bâtons là. Les deux gardes de l'Empire.
Les gardes impériaux.
Ouais, c'est qu'on voit jamais, mais qui sont juste vraiment badass.
Les évêques.
En fait, on s'est fait dire qu'ils étaient badass.
Moi, non, mais ils ont le saut qui est cool.
Ouais, tu peux pas être badass avec un saut. Tu peux pas être badass avec un saut.
Puis, Command Guys, moi, je mets des Snowtroopers en avant. Là. C'est ceux-là qui sont habillés ST pour jouer à la glace.
Ah, pas fou. Mais en même temps, ils vont chuter à côté du but tout le temps.
Moi, j'aime mieux mettre des Forest Troopers. Je me dis à quelle vitesse on monte au filet.
Oh, mais arrête, j'ai vu piloter.
Ils vont pogner un poteau puis ils vont crasher.
Encore une fois, tu as Chris un Ewok d'en face puis ils se font wiper.
C'est ça. Mm.
Fait que non, mon équipe est vraiment plate, mais au moins, elle a des soutes qui fuit.
On a des soutes qui fuit. Hein? Quoi de mieux que des soutes qui fuit?
Moi, je, quand même, je vais y mettre Black McManus ou Black McNeil dans mon équipe. McNeil.
Ce cheval en salopette qui tabarnaque des volets à Battlebury dans NHL 2000. C'est
un cheval, ça?
C'est la blonde.
C'est un cheval de
Saint-Germain.
C'est la blonde de...
C'est
la blonde de Black McNeil.
C'est la blonde.
C'est que Black McNeil, genre, ça sonne comme un... C'est un sequel de Black Dynamite, ou c'est genre...
Il est irlandais de souche.
Mais c'est un noir irlandais.
De souche.
C'est que c'est un noir roux de souche. C'est différent.
Ouais, fait que c'est...
Ça, même dans Star Wars, ça passe pas. C'est trop fantaisiste. Alors, c'était...
Donc, c'était mon dérapage presque contrôlé de la
semaine. Aucunement contrôlé.
Oui.
On se laisse là-dessus?
Eh oui, on se laisse là-dessus. Donc, notre podcast disponible sur Podomatic ou podomatic.com/divanquest.
On prend ton temps, on run short. Là, tu peux prendre tout smooth.
Je refasse ma conclusion.
Ben non.
Aussi sur iTunes, sur Stitcher, pour nous envoyer des commentaires, des suggestions, du hate mail ou des plaintes là, en fonction de nos commentaires racistes et ainsi de suite sur Twitter ou twitter.com/divanquest ou par courriel au divanquest@gmail.com
et bientôt divanquest.com. Restez à l'affût,
on se revoit dans deux semaines.